Nous sommes aux côtés de tous ceux qui luttent pour défendre les services publics et le bien commun. Nous n'avons pas besoin de davantage de barbarie, mais de nouveaux droits collectifs et de liberté.
Salut Daniel, c'est la coordination des intermittents et prières d'Île-de-France. Là, vous venez d'entendre un copain de la coordination juché sur le toit du MEDEF au 55 de l'avenue Bosquet. Voilà, avec lui, nous sommes une soixantaine, des intermittents et précaires, des membres des mouvements de chômeurs. Et nous avons décidé d'occuper le toit du MEDEF pendant que se tient aujourd'hui le conseil d'administration de l'UNEDIC. Nous dénonçons ce faux paritarisme. Le MEDEF représente à peine 1% du patronat, les organisations syndicales à peine 10% des salariés. Voilà, nous réclamons une autre forme de paritarisme que ce paritarisme sclérosé. Et nous réclamons toujours, en tant que coordination d'intermittents et précaires, l'abrogation du protocole du 26 juin 2003. Nous réclamons une expertise indépendante et des négociations. Voilà, nous avons commencé déjà à travailler sur l'expertise. Nous avons élaboré un contre-modèle beaucoup plus solidaire, basé sur nos pratiques d'emploi. Voilà, nous sommes donc... Là, vous entendez donc... Au pied de l'immeuble du MEDEF, il y a d'autres copains qui nous soutiennent. Nous sommes une centaine. Il y en a une soixantaine sur le toit, une bonne quarantaine en bas. Et nous descendrons quand nous devrons descendre. Voilà, à bientôt. Ciao.
Oui, bonjour, Daniel Mermet. Je vous téléphone parce que aujourd'hui, il n'y a que vous qu'on peut joindre. On peut pas avoir France Inter qui déménage, ni les auditeurs, ni quoi que ce soit. Or, je suis outré d'entendre à cette émission de midi où on joue les fous du roi, où normalement on doit être quand même un petit peu critique et pas trop beauf moyen, des gens qui sont bien loin d'avoir l'intelligence d'Albert Jacquard, le ridiculiser constamment. Heureusement, il y a les applaudissements constants des auditeurs pour venir s'inscrire en faux. Même Guy Carlier, qui est si insolent, se laisse avoir à la bêtise des intervenants. On ne le laisse même pas parler, il n'y a que lui qui se laisse pas agresser, et je trouve qu'au fond, c'est lui qui se défend le mieux, en définitive, donc c'est pas la peine que je me porte à son secours, mais je voulais quand même dire que vraiment, c'est lamentable d'entendre ça. Quand on entend un gars comme Albert Jacquard, qu'on rencontre auprès de toutes les grandes causes, d'entendre dire qu'il doit avoir une vie ennuyeuse, comme si la vie s'était tapée dans un ballon, puisqu'il s'agit de ça, ou des Jeux Olympiques. Moi, j'ai pas du tout une vie ennuyeuse, et je ne vais jamais voir un match de foot, et je me fous des Jeux Olympiques. Alors voilà, j'avais envie de pousser ce cri, parce que je suis horrifiée. Où va France Inter? Allô, allô, help, help!
Ne croyez jamais quand on vous dit qu'on ne peut pas changer les choses. Belle phrase de Barbara Valserani qui nous a replongé dans cette Italie des années 70 que nous avons tant aimée. Une Italie que, tu sais, Daniel, fait revivre superbement. Alors, pour rester fidèle à cet esprit de subversion et d'espoir et éviter de laisser s'endormir vos consciences, venez donc nous rejoindre samedi 26 juin à la Ville-Dieu, en Creuse, où Mémoire à Vif organise à partir de 14h une journée du refus, dédiée à tous ceux d'hier et d'aujourd'hui qui ont le courage de dire non. Simone de Bollardière, Jos Drey, Maurice Rachefous, Alban Liftier et beaucoup d'autres vous y attendent pour débattre avec vous de l'insoumission. Sans oublier le côté festif avec la chorale des résistances sociales de Limoges et un super méchoui bio.
Oui, bonjour, c'est Didier du Jura. Pareil, j'ai téléphoné pour dire que ce serait bien, avant la fin de la saison, de voir comment vous envisagez la suite de là-bas si j'y suis, pour la rentrée en septembre, à savoir est-ce que vous serez toujours là, étant donné que c'est quand même une des années les pires au niveau média en France, en particulier sur France Inter, depuis que je vous suis, quoi. Voilà, merci, au revoir.
Mais oui, on sera là à la rentrée de septembre. Vous cassez pas la tête. Un beau message aujourd'hui hein, sur le répondeur. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37. Tout le monde n'est pas collé devant sa télé en attendant. Entre la victoire du Portugal et le match de ce soir, il y a quand même d'autres choses qui se passent. Il y a une vie pendant la Coupe d'Europe. Et par exemple, ici même, là-bas, si j'y suis, on continue notre enquête. sur les années de plomb en Italie. Vous avez vu que bon, nos intervenants, ceux qu'on a rencontrés avec Francesco, la plupart n'aiment pas employer ce terme d'années de plomb. On essaye en tout cas d'évoquer ce que furent ces années 70, très très tumultueuses, très violentes, très ferventes, très folles aussi à certains égards. Ça s'est passé tout près de chez nous et nous avons oublié, pour la raison assez simple, que nos voisins transalpins voudraient bien oublier, mais ne peuvent pas. C'est un passé qui ne passe pas. Voilà pourquoi on passe par là.
Qui è Radio Alice?
Era il manifesto cannibale di Dada e i dadaisti.
Daniel Mermet, la base J'y suis avec Francesco Giorgini, l'Italie rouge, l'Italie noire, l'Italie des années 70. Flight number 2.
Sabato 12 marzo, 5 compagni arrestati.
La polizia sfonda la porta di Radio Alice.
Alle ore 13:15 di venerdì, 11 marzo, un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco, scende, si apposta, punta la pistola alla polizia. Associazione a delinquere, istigazione, vilipendio, dicono. Punta la pistola, prende attentamente la mira, con fredda decisione, spara alla schiena di Francesco.
Assassini!
Il compagno Francesco dice: mi hanno beccato, cade, morto, tra le braccia di un altro compagno, come noi. 100.000 a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti.
Il y avait une fièvre politique en Italie, nouvelle, dans ces années-là. La possibilité de masse populaire de pouvoir obtenir des choses qui étaient tout à coup à la portée de lutte.
E quindi molti compagni cominciano a interrogarsi se...
Ed è a partir de là che beaucoup de ses camarades qui ont pratiqué l'illégalité du FUS pendant des années se demandent après les échauffrés, les insurrections
del 77... quello che si può chiamare il salto di qualità. Bruttissimo termine, ma quello era.
Si c'est pas le moment de faire ce qu'on appelait à l'époque, avec un terme qui me plaît pas du tout, le saut qualitatif.
Saut qualitatif, vers la lutte armée.
Voilà.
Une chose était très claire, que le système...
Une chose est très claire, le système utilisé par les brigades rouges, celui de monter les marches dans les objectifs...
n'avait pas une solution, arrivé au moment où prenait prisonnier Moro, que c'était...
Cette logique des marches à monter dans le choix des objectifs était une logique qui s'arrêtait au moment où tu arrives au sommet de la hiérarchie. C'est-à-dire que quand il prend Moro, en 1978, qui est à ce moment-là l'homme politique probablement le plus important d'Italie, après ça, quoi?
Le seul coup d'État qui n'est pas ridicule est le coup d'État qui réussit. Les coups d'État qui ne réussissent pas, ils sont toujours ridicules.
13 mai, à Rome, des milliers de personnes recueillies défilent à l'endroit même où le corps d'Aldo Moro a été retrouvé.
Comment s'appelle la rue ici ?
Via Michelangelo Caetani.
Voilà, et là, on est devant une plaque qui est posée sur ce mur, avec deux gerbes un peu fanées, puis un bas-relief qui représente Aldo Moro. Et c'est donc là qu'on l'a retrouvé.
Si, qui la mattina del 9 maggio 1978.
Ici, le matin du 9 mai 1978.
È stata parcheggiata dai brigadisti rossi la macchina Renault 4.
A été garée la voiture, la R4.
Dentro la quale c'era il cadavere di Aldo Moro.
Dans lequel gisait le cadavre di Aldo Moro.
Mon sang retombera sur vous, sur le parti et sur le pays. A-t-il tremblé, sa main tremblait-elle, lorsqu'il écrivit ces mots, Aldo Moro, entre le 16 mars 1978 et le 9 mai 1978, au cours de ces 55 jours qui ébranlèrent le monde, on peut dire le monde, en tout cas l'Italie, en tout cas la conscience et l'inconscient de ce pays. Aldo Moro écrit cette phrase, il est le secrétaire général de la démocratie chrétienne, c'est un personnage politique éminent dans son pays. À qui écrit-il ? Eh bien, il écrit à Andreotti. Andreotti, qui est le président du conseil et qui est la figure que l'on sait, l'inoxydable Andreotti, qui par la suite sera compromis et jugé pour compromission, entre autres, avec la mafia. Aldo Moro sera exécuté le 9 mai 1978 par les Brigades Rouges. Alors, il faut se replacer dans l'époque. C'est ce qu'on essaye de faire. On est allé à Milan et pour évoquer cet attentat du 2 décembre 1969 contre une bombe posée d'une manière anonyme dans le hall d'une banque et qui est attribuée rapidement d'abord à des anarchistes et puis ensuite on s'aperçoit qu'il s'agit d'un complot d'extrême droite, d'un attentat d'extrême droite avec des éléments des services italiens. Donc une partie de l'État, peut-être d'autres forces occultes qui sont derrière. Et en tout cas, on essaye en Italie d'installer ce qu'on appellera la stratégie de la tension. Il s'agit de créer un chaos favorable, l'arrivée d'un pouvoir fort. C'est le contraire qui va se passer. L'opinion va comprendre la menace, va comprendre la machination, et c'est au contraire une mobilisation, une effervescence, des revendications, toute une contestation qui gagne l'Italie, aussi bien dans le cadre politisé du Parti communiste italien et des syndicats que du côté de ces mouvements, de ces qu'on appellera la gauche extra-parlementaire ou extrême gauche. Les mouvements, les noms les plus connus, c'est Poter Operaio, c'est Lotta Continua. Une foule de petits groupes comme ça vont se constituer. Et puis on va aller vers un durcissement, notamment à Bologne où nous étions en 1977, où la contestation étudiante prend des tours d'insurrection armée et le gouvernement envoie des véhicules blindés. Les choses se durcissent et on arrive de cette façon à 1978, donc à Rome. Et le 16 mars, donc, les Brigades Rouges enlèvent Aldo Moro. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Et il faut évoquer, évidemment, ce que sont ces Brigades Rouges, c'est-à-dire une sorte d'armée clandestine qui a pour but de prendre le pouvoir, de déstabiliser le pouvoir et d'aller attaquer au cœur même du pouvoir. Les Brigades Rouges, au départ, étaient un groupe comme les autres, un groupe de contestation comme les autres. Mais avec le temps, ce groupe s'est durci et passé à la lutte armée de façon offensive. Alors, avec nous aujourd'hui, parmi ceux que nous avons rencontrés au cours de ce voyage, on rencontrera aussi bien Prospero Gallinari, un ancien des Brigades Rouges, que Francesco Cossiga, l'ancien président de la République italienne, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. On commence par Prospero Gallinari, qui habite non loin de Bologne, et on le retrouve dans un appartement, dans une sorte de HLM, où il vit en liberté tout à fait limitée, puisqu'il ne peut sortir de son appartement que 2 heures par jour. Il est là, c'est une sorte de prison indulgente, si on peut dire, puisqu'il a un problème de santé. Et c'est là qu'il nous attend et qu'il nous explique et nous apporte des lumières lointaines de cette époque qui n'est pas morte, qui n'est pas classée. C'est une affaire qui n'est pas classée, c'est une affaire qui bouge encore, c'est une histoire qui bouge encore en Italie. Parlons de 78, de l'enlèvement d'Aldo Moro. Là, tu étais présent.
Certo.
Oui.
Sì, ero presente. Il sequestro Aldo Moro è un passaggio, ma è anche una continuità. È un passaggio.
La sequestrazione, l'allevamento di Aldo Moro, è un passaggio, ma è aussi dans la continuità.
È un passaggio perché è un attacco al palazzo.
C'è un passaggio perché c'è l'attacco au palais.
al punto più alto del potere politico in Italia.
Au point le plus élevé du pouvoir politique en Italie. L'attaque au cœur de l'État.
Noi siamo in una fase ancora di propaganda armata.
On est encore dans une phase de ce qu'on appelle la propagande armée.
Et donc tu étais là.
Sì, ho fatto parte del comando di Diafani e m'è provato, non abbiamo mai avuto nessun problema. Per cui non ho bisogno di negare la presenza o meno di qualcuno.
Tout à fait, j'étais présent dans le groupe de feu de Via Fani et j'ai aucun problème à l'admettre vu que la magistrature l'a déjà établi. Donc oui, je faisais partie du commando de Via Fani.
Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Coperti da un telo, sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi, sono quattro morti, mi dice
più un ferito,
mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, ti ringrazio.
Et alors la voiture était garée à mi-distance, exactement à mi-distance, entre le siège de la DC et le siège du PCI.
Esattamente, qui a poche decine di metri da qui, sulla destra c'è la sede del Partito Comunista, quella che fu la sede del Partito Comunista oggi non c'è più.
A quelques dizaines de mètres d'ici, vraiment quelques dizaines de mètres, sulla via delle botteghe oscure. Il y a ce qui a été le siège historique du Parti communiste italien.
La rue des boutiques obscures.
Ouais. Oui. Ça n'est le plus aujourd'hui. Ils ont vendu l'immeuble.
Et le siège de la DC est de l'autre côté.
Non, è dalla stessa parte dietro questo palazzo.
C'est de le même côté, mais derrière cet immeuble là-bas.
Si chiama Piazza del Gesù.
Et ça s'appelle Place du Jésus.
Pourquoi cette mise en scène symbolique
Perché, come l'hanno spiegato, appunto hanno fatto ritrovare il corpo di Moro nel luogo appunto simbolico dove c'erano i due partiti che in quel momento stavano governando il paese.
C'était justement un choix symbolique pour montrer comment le cadavre de Moro pesait sur les deux partis qui à ce moment-là étaient en train de gouverner le pays.
C'est-à-dire que l'intention, elle était que Aldo Moro s'apprêtait a signé un accord historique entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne, c'est ça. Et, en principe, les brigades rouges étaient censées s'opposer à cet accord.
Sì, certamente, anche se la scelta delle brigate rosse non era esattamente contro il lavoro che stava facendo Aldo Moro.
C'est vrai, mais en même temps, le choix des brigades rouges n'était pas exactement contre le travail che Moro était en train de faire.
Le Brigate Rosse decisero di colpire la Democrazia Cristiana, che era il partito simbolo dello Stato.
Le Brigate Rouge decide d'abord de toucher au cœur la Democrazia Cristiana, che è il partito simbolo dell'État.
Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera.
Cari amici.
À partir de quand vous avez été ministre de l'Intérieur?
Dal gennaio del 1976 fino al maggio del 1978.
À partir de janvier 1976 jusqu'à mai 1978.
Quando mi sono dimesso dopo l'uccisione di Moro.
Quand j'ai démissionné après l'assassinat d'Aldo Moro.
E 8 mesi dopo sono stato nominato presidente del Consiglio.
Et 8 mois après, j'étais nommé premier ministre.
Je voudrais que vous évoquiez votre pays avant, à partir de 69, enfin quand vraiment commence cette période-là.
La différence entre l'Italie et la France.
La différence entre l'Italie et la France.
Et que la politique et que la culture française hanno saputo gestire e metabolizzare il 68.
C'est que la politique et la culture française ont su gérer et métaboliser 68.
Cosa che noi non siamo riusciti a fare.
Chose que nous on n'a pas été capable de faire.
Alors voilà, Francesco Cossiga était donc ministre de l'Intérieur à l'époque, en 78, au moment de l'enlèvement et de l'exécution d'Aldo Moro. Il a été donc ministre de l'Intérieur, il a été chef d'État, il est aujourd'hui sénateur à vie, et il nous reçoit à Milan. Il a été... reconnu toujours aujourd'hui par ses adversaires, par ceux contre lesquels il s'est battu, par ceux qu'il a fait emprisonner, comme un adversaire loyal. C'est assez rare pour que nous ayons eu envie avec Francesco de le rencontrer.
Devo dire che il 68, per esempio, da me che ero già uomo politico, è stato vissuto come un periodo di speranza.
Je dois dire que pour moi 68, à l'époque j'étais déjà un homme politique, a été vécu plutôt comme un periodo d'espoir.
La responsabilità è stata della cortina di ferro che esisteva nel nostro paese.
La responsabilité pour les événements de la suite a été plutôt du rideau de fer qui pesait aussi sur notre pays.
Noi avevamo due egemonie.
Nous on avait deux hégémonies.
L'egemonia del Partito Comunista.
L'hégémonie du Parti Communiste.
Il cui motto era né pas d'ennemi à gauche.
Dont le mot était pas d'ennemi à gauche. Pas d'ennemi à gauche.
E anche della Democrazia Cristiana.
Et l'autre hégémonie c'était celle de la démocratie chrétienne.
E così il 68 ha creato una specie di rivolo sotterraneo.
68 a créé une espèce de ruisseau souterrain
qui poi è riaffiorato,
qui a ressurgi
in modo tellurico, diciamo,
d'une façon tellurique,
prima nella contestazione dell'autonomia di lotta continua,
d'abord dans la contestation de l'autonomie ouvrière, de lotta continua,
che erano contestazioni violente ma non armate,
qui étaient des contestations violentes mais pas armées,
che poi hanno prodotto insieme a spezzoni del Partito Comunista,
e qui après ont produit avec des morceaux du Parti Communiste
i movimenti armati, le Brigate Rosse,
les mouvements armés, les Brigades Rouges,
prima linea,
première ligne,
in app, mentre a destra si è verificato lo stesso,
pendant che a droite aussi il y avait l'insurgence d'un mouvement terroriste,
come i nuclei armati rivoluzionari e così via,
come le NAR, le nuclei armé rivoluzionari.
Comment vous avez vécu ça? Vous êtes ministre de l'Intérieur.
Ho dormito poco, 55 giorni.
Pendant 55 jours, j'ai presque pas dormi.
Aldo Moro était votre ami?
Sì, molto amico. Io debbo la mia carriera politica a Moro.
Moi, je dois ma carriera politica a Aldo Moro.
Lui mi ha nominato ministro dell'Interno contro tutte le previsioni.
C'est lui qui m'avait nommé ministre de l'Intérieur contre toute attente.
Pendant ces 55 jours, à quoi vous pensiez?
Ah, pensavo solo alle cose da fare in quel momento.
Je ne pensais qu'à autre chose que aux choses à faire dans le moment.
La decisione più dura è stata quella di non trattare.
La decisione la più difficile, la più dura, c'était celle de pas négocier.
Perché a differenza di altri che l'hanno presa nella speranza,
parce che contrairement d'autres qui ont opté pour ce choix avec l'espoir que ça sera la libération,
trascinati da quella logica stereotipa rivoluzionaria.
Moi j'avais compris que les Brigades Rouges, selon les clichés e la logica rivoluzionaria, le aurait amené a tuer Moro.
Chi parla? Brigade Rouge. Ha capito?
Sì.
Chi parla?
Le Brigade Rouge. Vous avez compris? Oui. Alors voilà, nous avons suivi les dernières volontés du président. C'est pour dire à la famille où trouver le corps d'Aldo Moro. Vous m'entendez? Non, pas très bien. Vous pouvez répéter? Non, je ne peux pas répéter. Alors écoutez, il faut avertir la famille qu'elle trouvera le corps d'Aldo Moro via Caetani. Via Caetani. C'est la deuxième rue à droite dans la via des Botteghe Oscure. Bien compris? Oui. Le corps est dans une R4 rouge. La plaque minéralogique commence par M5. Nous sommes donc le mardi 9 mai, il est midi précise. L'un des plus vieux amis d'Aldo Moro, le professeur Trito, reçoit ce coup de fil qui annonce l'exécution du président de la démocratie chrétienne.
Immense émotion, évidemment, en Italie ce jour-là, après 55 jours d'attente, de tergiversation, de choix entre la négociation, faut-il négocier avec, peut-on, faut-il négocier avec les Brigades Rouges, ou faut-il choisir la fermeté? Toujours aujourd'hui, on se perd en analyse, en soupçon, en ce que les Italiens appellent la rétrologie.
rétrologie. Rétrologie, c'est toujours supposer qu'il y a quelque chose derrière. Derrière ça, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et ce mot, lui, si peu courant chez nous, et si courant en Italie, pourrait à lui seul résumer cette affaire. L'opaque, l'obscur, le mafieux, le souterrain, le secret, et aussi le corrompu, la corruption. Aujourd'hui, combien, 25, 26 ans plus tard, on ne sait toujours pas précisément ce qui s'est passé. Mais les hypothèses continuent, les livres continuent de s'écrire, les films de se tourner sur ce qui s'est passé dans ces semaines terribles. Les Brigades Rouges étaient-ils ou non manipulés? Alors il y a deux thèses, il y a ceux des Brigades Rouges eux-mêmes qui vont nous dire que non, ils ont fait, c'était vraiment leur initiative, c'était leur politique, c'était leur projet, et d'autres nombreux, très nombreux, pour dire il y avait quelque chose, quelqu'un, une main derrière cette action et cet enlèvement. C'est le cas de Giovanni Bianconi, qui est un grand journaliste qui a écrit sur les Brigades Rouges et sur les brigadistes d'ailleurs, et qui est journaliste au Corriere della Sera. Est-ce que tu peux parler d'une manipulation des Brigades Rouges?
Una spiegazione che possiamo dare alla domanda di prima, cioè il fatto che in 55 giorni non sia stato trovato il luogo dove era tenuto Aldo Moro.
Comment pendant 55 jours, malgré un déploiement de forces précédent, on n'arrive à rien trouver sur la cachette de Moro?
Può trovare una spiegazione nel fatto che non tutte le forze di polizia.
On peut se poser effectivement la question, on peut émettre l'hypothèse que des parties des forces de l'ordre qui étaient impliquées dans soi-disant la recherche de Moro aient eu plutôt intérêt à ne pas le trouver, ou à mettre les choses d'une façon que les Brigades Rouges puissent continuer à faire leur travail sans être dérangées.
Est-ce qu'il peut y avoir là-dedans une manipulation, par exemple, de la loge P2 ou des réseaux Gladio, ou est-ce qu'on peut, ou ça c'est des théories un peu...
No,
le complot, c'est la théorie du complot.
Sì, questo si può teorizzare, ripeto, qui entriamo nell'ambito delle ipotesi senza prove.
Allora, évidemment, on est dans le champ des hypothèses, mais la loge P2 était effectivement et contrôlait effectivement à cette époque les services de sécurité. La loge P2 est effectivement une émanation d'intérêts atlantistes qui avait donc des positions très anticommunistes.
Delle cose con le quali la politica di Aldo Moro poteva entrare in conflitto.
Et qui était sûrement gêné, sûrement pas d'accord, voire irrité par l'initiative d'Aldo Moro d'ouvrir de plus en plus la voie du pouvoir au Parti communiste en Italie.
Pendant ce temps, la police de Rome poursuit ses perquisitions méthodiques et les contrôles des voitures autour de la capitale sont très stricts. Un après-midi marqué par ailleurs par les obsèques des 5 gardes du corps de M. Aldo Moro, en présence de nombreuses personnalités politiques et d'une foule considérable, presque des funérailles nationales, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Rome, Pascal Delannoy.
C'est en frappant dans les mains que les Italiens ont rendu cet après-midi hommage aux 5 gardes du corps d'Aldo Moro. Lorsque les 5 cercueils portés par des carabiniers ont quitté la basilique San Lorenzo, ils ont été des centaines à applaudir, une manière de saluer ceux qu'on considère comme des héros. À la télévision, c'est toute l'Italie qui a suivi ces obsèques, unie une fois de plus pour condamner cet assassinat, ces assassinats et au-delà bien sûr l'enlèvement d'Aldo Moro. À la basilique même, le président de la République, Giovanni
Leone. Alors tout se passe comme d'habitude, c'est-à-dire que l'émotion inhibe la réflexion et la raison et laisse tout le champ possible au cynisme du pouvoir. Y a-t-il eu manipulation ou non? Un point de vue qu'on rencontre souvent, celui de Giovanni Bianconi, et au contraire d'autres qui pensent que non, il n'y avait pas de manipulation. C'est le cas, par exemple, de Giorgio Galli, qu'on a déjà entendu, qui est un politologue éminent et l'auteur tout récemment d'un livre intitulé Plombio Rosso, Plomb Rouge.
L'opérazione è stata pensata dalle Brigate Rosse.
L'opérazione a été pensée par les Brigades Rouges.
Non c'è stato un complotto che andasse da Washington a Mosca.
Il n'y a pas eu de complot qui allait de Washington à Moscou.
Pas du tout.
Pas du tout. e i servizi italiani hanno sottovalutato che in tutto il periodo nel quale erano state lasciate riorganizzare, le Brigate Rosse si erano organizzate molto bene. E i servizi, secondo me, questo l'hanno sottovalutato.
A mon avis, les services secrets ont sous-évalué la capacité de réorganisation des Brigades Rouges. Ils n'ont pas compris quelle dimension militaire et quel potentiel avaient acquis les Brigades Rouges. Et donc, ils se sont retrouvés impréparés face à cette nouvelle qualité de l'organisation des Brigades Rouges.
Tuttora non è stato individuato il tiratore scelto che ha sparato in via Fani.
Sulla Moro il y a nombre de mystères. Mais on peut commencer par un mystère, comment dire, tout à fait technique. On n'a pas encore compris, on n'a pas encore identifié qui était le tireur d'élite, parce qu'il fallait bien un tireur d'élite, qui a réussi à lui tout seul à descendre les 5 hommes de l'escorte sans toucher Moro, qui était au milieu de son escorte. Et c'est sûrement pas un des brigadistes qui ont été identifiés comme étant partie du commando de Via Fani, de celui qui a enlevé Moro.
Alors ça pourrait être qui? Le tireur d'élite?
La domanda che Franceschini, che ha molti dubbi su Moretti, pone, chi era Tex Willer?
C'est une des questions qu'on se pose sur cet enlèvement, et c'est notamment la question qui pose Franceschini, qui était à cette époque en prison et qui a beaucoup de doutes sur Moretti, et qui demande qui était Lucky Luke. Il dit qui était Tex Willer, mais Tex Willer étant un personnage de BD, un cowboy de BD italien qui correspond un peu à Lucky Luke, et donc Albertini demande qui était Lucky Luke in Via Fani.
Adesso vediamo e concludiamo sull'aspetto politico. Le Brigate Rosse ottengono un grande successo, chiedono in cambio del rilascio di Moro la liberazione di un certo numero di militanti arrestati, Curcio, Franceschini e altri.
Le Brigate Rouge ottengono donc un grand succès militaire. Ils demandent en échange de la libération de Moro, la libération de toute une série, de tout un groupe de militants. Les Brigate Rouge, mais pas seulement les Brigate Rouge, qui sont à ce moment-là emprisonnés, parmi lesquels Franceschini e Curcio.
Ma il loro vero obiettivo non è questa liberazione, quanto un riconoscimento politico. Vogliono essere riconosciuti come un soggetto politico combattente. Questa è la cosa che non ottengono.
Ma leur rivendication principale, fondamentale, n'est pas tant la libération de ses camarades emprisonnés, mais c'est plutôt la reconnaissance de leur caractère de sujet politique combattant, d'adversaire politique combattant de l'État. Chose qu'ils n'obtiendront pas.
Mais est-ce qu'ils le demandent explicitement? Est-ce qu'ils demandent explicitement cette reconnaissance?
Soprattutto alla Democrazia Cristiana. L'ultima telefonata è del 30 aprile e Moretti si espone personalmente a telefonare alla famiglia Moro. Viene tentata la mediazione anche del Papa, si fanno vari tentativi. Dico, l'ultimo
notamment il demande la riconoscenza della Democrazia Cristiana, au point che il 30 avril Mario Moretti, che è allora il chef di Brigade Rouge, si espose personalmente e telefona alla famiglia Moro en disant il y a un geste della Democrazia Cristiana e del suo segretario dell'epoca Zaccagnini, chi può sauver Moro?
Senta, io sono uno di quelli che sarà qualcosa a che fare con suo padre, devo fare un'ultima comunicazione.
Sì.
Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono...
Alors ces documents, c'est le dernier coup de téléphone des Brigades Rouges du vivant d'Aldo Moro en mai 78. Celui qui parle, c'est probablement, très probablement Mario Moretti des Brigades Rouges. Il s'adresse à la famille d'Aldo Moro pour obtenir ce qu'on vient de dire, ce que vient de nous dire Giorgio Galli, c'est-à-dire la reconnaissance politique des Brigades Rouges par la Démocratie Chrétienne en exigeant l'ouverture de négociations et bon, c'est la fin, on sait ce qui s'est passé, ça a été le choix de la fermeté qui l'emportera et donc Aldo Moro sera exécuté le 9 mai 1978 sans qu'on puisse savoir qui exactement était derrière les exécuteurs. On a vu la main de la Casa Madre, c'est-à-dire du Pentagone, de la CIA. On a beaucoup soupçonné Andreotti lui-même. On a beaucoup, on en parlera, soupçonné également la loge P2. cette fameuse loge, enfin cette espèce de d'état dans l'état, mafieux à la fois, franc-maçon, etc., dont on reparlera. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'histoire n'est pas entièrement écrite. Voilà pourquoi nous retrouvons donc Prospero Gallinari, l'un des de ceux qui était là présent lors de l'enlèvement d'Aldo Moro et qui était présent lors de sa détention dans ce qu'on appelait ce que les brigades rouges avaient appelé la prison du peuple, c'est-à-dire, on le découvrira par la suite, un appartement planqué quelque part dans Rome, ou plutôt un appartement tout à fait ordinaire dans lequel Aldo Moro était détenu par les brigades rouges, dont Prospero Gallinari, aujourd'hui un quinquagénaire tout à fait tranquille, souriant, qui nous reçoit dans sa cuisine. Il y a ces 55 jours où Aldo Moro est détenu, et là tu es là avec lui.
Si. Oui. Si. Sono quello che gestisce la casa, si.
Si, je suis celui qui gère la maison, la prison où il est maintenu.
Parle-nous un peu d'Aldo Moro, quel dialogue tu as avec lui, quel contact?
Quello che ci può essere tra una persona che è prigioniera, è stata sequestrata da un altro che la tiene prigioniera, per cui...
C'est le rapport entre un séquestré et son gardien.
C'est un scambio che si sviluppa attraverso una parte, l'interrogatorio che viene condotto dall'organizzazione.
Il y a un échange entre nous et Aldo Moro, à commencer par l'interrogatoire qui est conduit par l'organisation.
C'est toi qui conduis l'interrogatoire?
Non, c'est Mario Moretti.
Non, Mario Moretti.
Mais tu assistes aux interrogatoires?
Sì, sì, però si è deciso che doveva essere una persona sola che teneva tutta la...
Tutto a fait, ma on avait décidé
in modo da non fare confusione, da non, cioè, da tenere un filo fisso, e il ruolo di Mario era quello, il ruolo mio era quello di gestire la base, di garantire la sicurezza della base, la vita di Moro all'interno.
On avait décidé un partage de rôle très strict pour qu'il n'y ait pas de confusion et de brouillage. Mario Moretti c'était celui qui conduisait les interrogatoires pour maintenir un fil rouge très clair. Moi, mon rôle était celui de gérer la maison, de garantir la sécurité de la maison et la sécurité et la vie aussi du prisonnier.
Quel était le but de ces interrogatoires?
L'obiettivo dell'interrogatorio è partito per processare la Democrazia Cristiana, cioè noi processavamo Aldo Moro come uno dei suoi massimi dirigenti, ma il problema non era.
Per noi c'était le procès alla Democrazia Cristiana, pas en tant qu'homme, pas en tant que persona fisica e specifica, ma en tant que per noi c'était le procès alla Democrazia Cristiana.
Là c'était un interrogatoire, c'est pas un procès.
Infatti un termine del processo era perché il popolo processa i suoi, però in realtà eravamo noi stessi vittime di un linguaggio che non era inventato da noi.
Il termine du procès était un terme rhétorique parce que la classe ouvrière fait le procès à la démocratie chrétienne en tant que représentant du capital, etc. Mais bon, finalement, on était nous-mêmes victimes de mots qui ne nous appartenaient pas, qui ne l'avaient pas décidé.
Oui, parce que la classe ouvrière dont vous parlez, dont vous prévalez à ce moment-là, elle vous ignore, même à la limite, elle vous rejette à ce moment-là. Victime de mots qui ne nous appartenaient pas, victime de mots dont nous n'avions pas décidé. On va voir plus tard comment Adriano Sofri, dans sa prison à Pise, juge justement cette folie du langage, et c'est peut-être par là qu'on peut trouver la manipulation. Point de vue de Francesco Cossiga, ex-ministre de l'Intérieur, ex-président du Conseil, aujourd'hui sénateur à vie.
L'ideologia delle Brigate Rosse era una caricatura del marxismo-leninismo antistorico.
L'ideologia delle Brigate Rouge c'était una caricatura del marxismo-leninismo antistorico.
Loro non erano terroristi nel senso tecnico del termine.
Ils n'étaient pas des terroristes dans le sens technique du terme.
Terrorista è chi crede con l'atto terroristico di cambiare la società.
Terroriste, c'est celui qui croit avec son acte de terreur de changer la société.
Loro credevano di scatenare una dura rappresaglia dello Stato.
Lui pensava déchaîner une dure réponse de l'État.
Che spingesse le masse ad insorgere contro lo Stato.
Qui aurait poussé les masses à s'insurger contro l'État.
E la nostra strategia è quella di un contenimento e di una repressione non indiscriminata.
La nostra strategia était celle d'un contenimento e d'una repressione
non indiscriminata.
Non indiscriminée.
Une question évidemment qui revient depuis l'époque, est-ce que les brigades rouges étaient infiltrées, étaient manipulées?
Non.
Non.
Lo dico per due motivi.
Je le dis pour deux raisons.
Anzitutto perché conosco quasi tutti i capi delle brigade
rouges. La première, c'est que je connais à peu près presque tous les chefs de brigade rouge.
E quando io ho lasciato il Palazzo del Quirinale,
quand j'ai fini mon mandat de président de la République,
io ho voluto capire che cosa fosse stato questo fenomeno del terrorismo.
J'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce que ça a été ce phénomène du terrorisme.
E mi sono trovato subito in contrasto con molti dei miei compagni di partito.
Et je me suis tout de suite retrouvé en opposition avec beaucoup de mes camarades de parti.
E anche con una grossa fetta del Partito Comunista Italiano.
Et aussi avec un gros morceau du Parti communiste italien.
Cioè, noi abbiamo avuto una piccola guerra civile strisciante.
Nous en Italie, on a eu une petite guerre civile rampante.
Rampante.
Loro ritenevano di essere una forza politica.
Eux, c'est-à-dire les brigatistes et les terroristes, pensaient être une force politique.
Vous pensez aussi qu'ils étaient une force politique?
Sì. Mmh. Certamente. Un soggetto politico di ideologia astorica marxista leninista religioso cristiano.
Tout à fait, je considère que c'était un sujet politique avec une idéologie marxiste leniniste anti-historique et avec une sorte de messianisme de la tradition chrétienne.
Può darsi che loro fossero siano stati infiltrati a scopo di intelligence.
Il se peut qu'ils soient été infiltrés pour des raisons d'information, de renseignement.
Io credo che israeliani, sovietici, americani,
c'est-à-dire moi je crois que les israéliens, les américains et les soviétiques
abbiano voluto vedere da dentro di che cosa si trattava.
On peut être infiltré les brigades rouges pour voir de l'intérieur de quoi il s'agissait.
Ma un movimento di questo genere che aveva radici nelle fabbriche.
Mais un mouvement de ce genre qui avait des racines dans les usines
e che era fatto da giovani intellettuali tecnici operai specializzati.
E che te costituì dei giovani intellettuali e tecnicien specializzati.
E che correvano il rischio di lunghe detenzioni o di morte.
E ancora il rischio di lunghe detenzioni e di morte anche.
Non possono essere su questa vasta scala manipolati dall'esterno.
Ne peuvent pas être su un base si large manipulé par l'extérieur.
L'affaire Aldo Moro, eh bien, on est arrivé ce soir au point de non-retour, semble-t-il, avec la lettre écrite de la main même du leader de la démocratie chrétienne et adressée au journal romain Vita. Une lettre bouleversante qui semble être aussi un ultime appel d'Aldo Moro. Alors tout de suite, de Rome, notre envoyé spécial, Pascal Delannoy.
Cette lettre est la plus dramatique de toutes celles qu'a écrites jusqu'à présent Aldo Moro. Le président de la démocratie chrétienne est, on ne peut plus clair, il faut, dit-il, négocier, c'est une question de secondes, même pas de minutes. Aldo Moro qui dresse contre son parti un violent réquisitoire, il lui reproche d'éluder les problèmes politiques réels, reproche aussi très dur adressé à l'État, critiqué pour son inertie, son laxisme et son manque de sens historique. Aldo Moro qui au passage décoche quelques flèches en direction des communistes, une force écrit-il qui devra faire ses comptes avec tous ses problèmes. L'allusion venant de l'homme qui justement a le plus milité pour le rapprochement entre les deux grands partis italiens, l'allusion est claire quand on sait que dès le début, le parti communiste a rejeté toute idée de négociation. Et puis il y a ce passage étonnant où Monsieur Moro parle de ses funérailles. « Je demande, écrit-il, qu'à ses funérailles ne participe aucune autorité de l'État, ni homme de parti. Je demande seulement à être suivi par ceux qui m'ont vraiment aimé et sont dignes de m'accompagner par leurs prières et leur amour. »
On sait qui l'a abattu.
Aldo Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Io ho sostenuto questo per 15 anni quando dicevano che ero io che l'avevo ammazzato. Di conseguenza me ne sono sempre assunto la responsabilità, me l'assumo ancora oggi.
Pour ce qui me concerne, c'est insignifiant. Aldo Moro a été tué par les Brigades Rouges. Pendant 15 ans, on a dit que c'était moi qui avais tiré la gâchette.
Mario, nella sua intervista con Rossanda, dice che ha sparato lui.
Mario Moretti a dit que c'était lui qui avait matériellement tiré la gâchette, mais comme c'était pas décisive avant qu'on disait que c'était moi, c'est pas non plus décisive que Moretti se prend la responsabilité d'avoir appuyé sur la gâchette. Dès que je suis rentré dans les Brigades Rouges, j'ai considéré que j'avais assumé toutes les actions et les choix de cette organisation. Donc c'est les Brigades Rouges qui ont tué Aldo Moro et moi j'en ai fait partie, donc j'en assume la pleine responsabilité.
Cette logique-là autorise à tuer.
La storia legittima l'omicidio.
L'histoire quanti, légitime l'assassinat.
Quanti rivoluzionari sono stati uccisi, quanti popoli sono stati massacrati sulla base di interessi, quanta gente sta morendo in questi giorni in Iraq, abbiamo notizie, stiamo qua discutendo del fatto.
La mort fait partie de l'histoire, combien de rivoluzionari ont été tués, combien de popoli ont été massacrés pour des intérêts souvent économiques, combien de. Aujourd'hui ancora in Iraq, il y a des dizaines d'Irakiens qui meurent tous les jours. La mort fait partie dramatiquement de l'histoire. Moi, j'ai jamais été un chasseur, j'ai jamais été aucune envie d'aller à la chasse d'hommes, donc c'est pas, je le regrette que ce soit comme ça, mais c'est comme ça, c'est la mort fait partie de cet affrontement.
Est-ce que l'enlèvement d'Aldo Moro était une erreur ou non, de ton point de vue?
Non si può rivedere la storia con i se con i ma.
On ne peut pas refaire l'histoire avec les si ou les mi.
La realtà di quegli anni ha prodotto quelle cose.
La réalité de ces années-là a produit ces événements.
Là, abbiamo perso. Abbiamo perso, di conseguenza, sicuramente errori ne abbiamo fatto.
On a été battu, donc on a sûrement fait beaucoup d'erreurs, sinon on n'aurait probablement pas été battu.
Mais est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu regrettes?
I rimpianti non sono io. Vedendo all'oggi, posso dire una cosa. Negli anni 80 si esemplifica abbastanza questo percorso qua.
A mon avis, si je dois nommer un regret, je dirais que nous, à la fin des années 70, au début des années 80, on aurait pu comprendre mieux quelle était la situation sociale réelle, la dynamique qui était en train de se déclencher, et essayer peut-être, pour faire un exemple, de, entre guillemets, mourir debout, donc comprendre que c'était fini et arrêter à temps. Alors que l'autre choix a été celle de continuer malgré tout et de finir finalement détruit. Pas tant du point de vue organisationnel et militaire, qui est un aspect largement secondaire, mais du point de vue politique.
Mais sur le plan humain, est-ce que tu as des regrets pour les gens qui ont été tués?
In una guerra, i rimpianti, sono morti tanti compagni, abbiamo ucciso delle altre persone. Il problema non è dei rimpianti.
Les regrets sont les regrets de toutes les guerres. Quand l'affrontement arrive à un niveau militaire de ce type-là, les morts font partie de l'affrontement. Il y a eu beaucoup de camarades qui sont morts et effectivement, nous, on a tué des gens. À l'intérieur de cette guerre, on a tué des ennemis. Donc, on peut regretter la guerre, mais regretter les morts de la guerre n'a pas beaucoup de sens.
Pour toi, c'était une guerre civile.
Certo.
Tout à fait.
Mais qui n'avait jamais été déclaré ou qui a toujours été déclaré.
Mais ritengo più corretta la seconda interprétazione, che sempre è stata dichiarata.
Je considère plus pertinente et correcte la deuxième définition, c'est-à-dire une guerre qui a toujours été déclarée.
Pour ceux qui, parmi vous, n'arriveraient pas à faire la différence entre des morts de la guerre et des morts tout court, voilà la conclusion, pour aujourd'hui en tout cas, d'Adriano Sofri. Je rappelle qu'on l'a rencontré dans sa prison à Pise. Il fut le leader de l'OTA Continua, dissous en 1976. Et il est un témoin engagé de cette période.
Je pense que la lutte armée, la lutte clandestine, les brigades rouges, les autres formations, prima ligne, etc. J'ai connu beaucoup de militants et je les ai connus même après tout ça, quand ils sont redevenus des gens normal, pour ainsi dire, des très braves gens. Je pense qu'on ne peut pas entendre ces choix et cette période sans se souvenir de combien il était idiot, imbécile. Leur analyse de la réalité était imbécile. Leur culture était tout à fait stupide. Leur idée du monde était fétichiste, superstitieuse et ridicule. Il aimait les majuscules, le CIM. Il parlait du CIM, l'État impérialiste des multinationales. Il ne s'agissait ni de l'État, ni de l'impérialisme, ni des multinationales. Il s'agissait d'un fétiche verbal. On a eu une série énorme d'attentats faits pour pouvoir diffuser des proclames. Pas les proclames pour expliquer les attentats. Ils aimaient leurs mots. Ils étaient ivres de leurs mots. Tout à fait ridicules. Dans la grande majorité, il s'agissait de personnes frustrées par leur militance publique qui n'arrivaient pas à avoir un rôle important dans la militance publique. Il s'agissait plusieurs fois de personnes qui cherchaient leur possibilité même sexuelle et amoureuse dans la clandestinité. Je ne dis pas ça avec ni plaisir, ni, comme se dice, iattanza, ni arrogance. Moi aussi, j'étais très stupide, très mesquin. Moi aussi, j'ai voulu faire la révolution même pour avoir plus d'amour, et de fantastiques jeunes filles et tout ça. Ce qui s'est passé d'une façon tout à fait supérieure à mes possibilités privées. Mais je dis ça avec une solidarité très forte avec ces gens-là. Mais on ne doit pas oublier ça. Avec ce incroyable terrorisme de, je ne sais pas, 10, 20 personnes qui, une fois chaque 2 ans, ils tuent un bon professeur d'université de droit du travail. Ils tuent un homme, ils font un manifeste pour revendiquer qu'ils ont tué ce brave professeur. Quelquefois de gauche. Moi, je peux vous dire sincèrement, sans trahir moi-même, que je considérais le terrorisme des brigades rouges, des prima ligne, etc., comme un outrage à l'intelligence plus normale et moyenne à ce temps-là. Et je ne suis pas content qu'on révisite ces années en rendant grand quelque chose qui était très triste, très, très amer, mais surtout très petit.
Merci à Adriano Sofri, Francesco Cossiga, Giuseppe De Lutis, Giovanni Bianconi, Giorgio Galli et Prospero Gallinari. C'était les années noires et les années rouges et les années de plomb en Italie. Je rappelle que la Ligue des droits de l'homme et France Liberté Fondation Daniel Mitterrand organisent demain samedi 26 à 18h30 au Théâtre de l'Œuvre, rue de Clichy à Paris, une soirée de soutien à Cesare Battisti. Technique aujourd'hui Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Koye Nguyen, Yann Chouquet, Guy Vanquil, Thierry Char, Francesco Giorgini, Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert. Voilà toute l'équipe de la Basse où j'y suis qui s'est appliquée à vous présenter cette émission. Je rappelle le numéro du répondeur de la Basse où j'y suis, 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chaot qui a réalisé cette émission modeste et géniale.
Le seul coup d'État qui n'est pas ridicule est le coup d'État qui réussit. Le coup d'État qui ne réussissent pas, ils sont toujours ridicules.